Chapitre 2. Le 9 novembre 1799, un coup d'État renverse le directoire qui n'était plus qu'une guenille et le général Bonaparte prend le pouvoir. La France tout entière veut cet homme, non seulement parce qu'il est un héros victorieux, mais parce que le pays a besoin d'ordre et de paix et qu'il croit Bonaparte seul capable de les lui donner. Car ce très jeune militaire a toutes les apparences d'un sage. Il a dit « Pour gouverner les hommes, il faut penser comme eux sur tous les grands sujets » et se laisser porter par l'opinion. J'aime les honnêtes gens de toutes les couleurs et je veux un long armistice intérieur. Tout cela est infiniment habile et rassurant, et surtout dans la bouche d'un général de 30 ans. Mais Bonaparte, comme toute la France, sait à quoi s'en tenir sur l'état du pays, et le lendemain du 18 Brumaire, c'est un homme de gauche, le député Boulet, qui a fait à la tribune le bilan de la Révolution, brossant le tableau de l'anarchie régnante. Qu'on examine aujourd'hui chaque partie des services publics. En est-il une seule qui soit organisée? Non, tout est dans le chaos. Est-il donc étonnant qu'il n'y ait en France ni liberté publique, ni liberté particulière, que tout le monde y commande et que personne n'y obéisse? Il s'agit donc d'apaisement, de pacification et d'ordre. Et la province ressent cela plus fortement encore que Paris. Le nouveau maître veut être celui qui gouverne pour tout le monde. Or, il existe un caractère permanent de la France, un état d'esprit si profond que la Révolution n'a pu l'entamer. Ce pays reste essentiellement catholique. Bonaparte, qui ne croit guère à Dieu ni à diable, mais qui réserve son cynisme à ses familiers, comprend cela. Il s'incline. On ne parle que de liberté partout. Et la liberté veut d'abord que le prêtre réfractaire, c'est-à-dire fidèle à sa foi, soit réinstallé en triomphe dans l'église de son village. Une série de mesures étant un libéralisme progressif. Les ecclésiastiques reviennent d'exil. Le Lyonnais lui-même est bien servi à cet égard. À Écully, déjà, Mgr Grosbose et Royer célèbrent publiquement la messe. Le culte est rétabli avec gloire dans une atmosphère de Pâques. Au premier rang des fidèles, la famille Vianney. Jean-Marie est heureux. Mais quand aurons-nous un prêtre à Dardilly, pense-t-il? C'est maintenant un solide jeune paysan de 14 ans qui travaille dur, aidant son père et son frère François l'aîné. Dès cet instant, il fait tout avec le bon Dieu. Plus tard, il évoquera ces heures-là, ces journées, enfin heureuses, où il s'exhorte en plein champ, mêlant étroitement la dépense physique et l'oraison. « Allons, mon âme, si tu travailles avec Dieu, c'est toi qui travailleras, mais c'est lui qui bénira ton travail. Tu marcheras, mais il bénira les pas. » Il ajoutera en paysan qui connaît le prix des choses et qui parle à des paysans, et qui sait que Dieu est un payeur fidèle, tout sera compté. La privation d'un regard, d'une satisfaction, tout sera écrit. Il y en a qui profitent de tout, même de l'hiver. Il fait froid, ils offrent à Dieu leurs petites souffrances. Le curé d'Ars n'oubliera pas davantage la haute poésie des heures que le petit Jean-Marie Vianney a vécu dans la campagne en ce début du siècle nouveau. Et les catéchismes d'Ars, les sermons, les entretiens fourmilleront d'anecdotes paysannes, d'images puisées dans la nature vivante. Une âme qui possède le Saint-Esprit goûte une saveur dans la prière qui fait qu'elle trouve toujours le temps trop court. Elle ne perd jamais la sainte présence de Dieu. Son cœur est un raisin sous le pressoir. Le Saint-Esprit repose dans une âme pure comme sur un lit de rose. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. C'est un miel qui descend dans l'âme. Ceux qui ne prient pas se courbent vers la terre comme une taupe qui cherche un trou pour s'y cacher. Ils sont tout terrestres, tout abrutis. Mais en évoquant son enfance, hélas, l'abbé Vianney, curé d'Ars, n'y trouvera pas seulement une palette pour colorer sa pensée brûlante et débordante. Il y puisera aussi toute l'amertume des regrets. L'amour de la terre, de la prière et de la solitude le hantera. Dans l'exil de son ministère écrasant, dans la prison de son petit confessionnal, il y pensera avec des larmes. « Si, dira-t-il, maintenant que je cultive les âmes, j'avais le temps de penser à la mienne, comme lorsque je cultivais les terres de mon père, oh, que je serais content !» Et pour couronner cette profession de foi, voici une confidence qu'il fera un jour à son compagnon, le frère Athanase, une confidence que nous trouvons pathétique dans la bouche de celui qui restera jusqu'au bout le paysan contemplatif et l'ermite passionné de son enfance. « Je crois que ma vocation et d'être berger toute ma vie. » On se tromperait en croyant que le petit Jean-Marie n'est qu'un rêveur. Il possède un tempérament vigoureux et même puissant, qui le porte volontiers à l'action. Marguerite Vianney, là-dessus, nous contera une anecdote significative. Jean-Marie, nous dira-t-elle, allait ordinairement travailler au champ avec les gens de la maison. Tant que la tâche était commune, il fournissait consciencieusement, selon ses forces, son contingent de travail, et tout se passait amiablement. Mais un jour qu'il avait été envoyé à la vigne, seul avec François, il avait dû s'excéder de fatigue pour atteindre son frère qui, en sa qualité d'aîné, se croyait obligé d'en faire plus que lui. Voilà donc notre pauvre Jean-Marie désolé et piqué au vif car il est fier. Il se plaint à sa mère le soir venu, alléguant que François va trop vite et qu'il ne peut le suivre. « François, dit Marie Vianney, va donc plus lentement, ou bien de temps en temps donne un coup de pioche à la passée de ton frère. Tu vois bien qu'il est plus jeune et moins fort que toi. » Mais répond François, Jean-Marie n'est pas obligé d'en faire autant que moi. Que dirait-on si l'aîné n'avançait pas plus vite que le cadet ? Le lendemain matin, et c'est encore Marguerite qui parle, une sœur de l'Anticaille de Lyon vint à la maison paternelle. Elle donna à chacun de nous une image. Elle avait une petite statue de la Sainte Vierge enfermée dans un étui. Nous la voulions tous, cette statue, mais elle en fit cadeau à Jean-Marie. Le surlendemain, il alla travailler avec François. Et cette fois, Jean-Marie, dans la lutte contre son frère, met le ciel de son côté. Il baise les pieds de la statue, puis la jette devant lui aussi loin qu'il peut et se met au travail. Quand il l'a atteinte, il pose son outil, prend la statuette avec respect et fait comme la première fois. Et de retour à la maison, attribuant à la Vierge tout le mérite de l'opération, il n'en dit pas moins avec fierté. « J'ai pu suivre François et je ne suis pas fatigué. » Souvent, à la tombée de la nuit, les paysans se réunissent pour rentrer ensemble au village. Repris par son amour du silence et de la solitude, Jean-Marie demeure volontiers en arrière. Il prie. Ce gamin a déjà le sens presque mystique de l'infini de Dieu. Cet amour éperdu, ce respect saisissant du divin, qui s'empare de certains êtres privilégiés et les retranche du monde par instant, comme la mer entoure les îles. Oui, Jean-Marie prie en arrière, seul, tandis que les autres rient, chantent et se détendent. Mais on ne trouve jamais la moindre ostentation chez l'enfant. Lui-même, si prompt à s'accuser, il se rendra justice dans ce domaine. « Quand j'étais seul au champ, dira-t-il avec ma pelle ou ma pioche à la main, je priais tout haut. Mais quand j'étais en compagnie, je priais à voix basse. » Les autres parfois se retournent, ils voient un chapelet au doigt de Jean-Marie, observent les lèvres de l'enfant qui remue toujours, et quelques-uns se moquent ouvertement. « François, ne vas-tu pas marmotter des patre-nôtres avec Jean-Marie ?» François, l'aîné, goûte peu ses plaisanteries, mais il se tait. Quant à son cadet, qui a l'esprit fin et le sens aigu de la répartie, il doit prendre durement sur lui pour garder le silence. Au reste, les quolibets ne vont pas loin. Jean-Marie n'a pas 15 ans, mais il est à ce point maître de lui déjà que les railleurs se découragent. Cependant, une ère de paix et d'union a commencé pour la France. Bonaparte, premier consul, est amené peu à peu à se tourner vers Rome. Il veut associer le chef de l'Église catholique à son œuvre d'arbitrage. Signé le 15 juillet 1801, le concordat met fin à une situation qui semblait inextricable. Étrange pacifiquement un véritable nœud gordien d'intrigues, de rancœurs et de haine. Cet acte fameux est ratifié à Rome le 15 août et le 5 avril 1802, par décision du corps législatif, il devient loi d'État. Muet depuis 10 ans, le bourdon de Notre-Dame annonce Pâques le 18 avril, en même temps qu'il donne une voix au triomphe de l'Église et aux libertés retrouvées. Dans les provinces, l'effet du concordat est immense, prodigieux. Monsieur Jacquerey, le peu courageux curé de Dardilly, mais enfin tout le monde n'a pas la trempe des martyrs, est resté dans son village. Admis comme desservant concordataire, il exerce à nouveau son ministère et les paroissiens se montrent indulgents dans l'allégresse générale. Désormais, Jean-Marie a son église, comme il le désirait passionnément. Il s'y rendra chaque fois qu'il le pourra. Son métier de paysan qu'il aime et qu'il fait bien l'accapare et réclame l'essentiel de ses forces. Mais parfois, n'y pouvant plus tenir, il lui arrive de tricher un peu. Et c'est ainsi qu'un jour, entendant sonner une bénédiction, il propose un petit marché à son père qui souffre de ses rhumatismes. « Laisse-moi aller une demi-heure à l'église, je prierai pour que votre mal disparaisse. » Jean-Marie a maintenant 17 ans, il sait qu'il est fort peu instruit et il en souffre. Le soir, il veille longtemps dans la nuit, les yeux ouverts, pensant à Dieu, s'interrogeant sur son avenir. L'avenir, Jean-Marie Vianney ne le voit déjà que sous une forme, être prêtre. Mais il est tourmenté par la conscience claire de son ignorance et par la perspective de se mettre au latin. De tout cela, il parle à sa mère. « Si j'étais prêtre, dit-il, je voudrais gagner beaucoup d'âmes. Marie Vianney, en pleurs de joie. Et la tante Imbert, mise dans la confidence, approuve hautement, elle aussi, le beau projet. Mais que dira Mathieu Vianney ? Jean-Marie est un bon cultivateur, dans toute l'acception du terme. Il est dur au travail, adroit, compétent, et le père a besoin de ses bras. D'autant plus que les temps sont durs, qu'il a fallu payer un remplaçant à François pour le service militaire, ainsi que la dot de Catherine, l'aînée mariée depuis peu. Donc Mathieu est de méchante humeur et se montre intraitable. Il ne veut pas que Jean-Marie le quitte. Heureusement, à Écully, près de Dardilly, la cure est occupée par l'abbé Ballet, qui a été dans le Perche l'un des hommes de la résistance religieuse au début de la Révolution, et de 1795 à 1802, l'un des missionnaires clandestins de M. l'abbé Linsolas à Lyon. Ce prêtre âgé de 52 ans, maigre et de haute taille, a le profil romain. Il est imposant, impressionnant à la première rencontre. Mais on voit très vite en l'approchant que M. Ballet est un saint. Il se met au service des âmes avec une ardeur brûlante. Bien entendu, Jean-Marie le connaît de réputation. Et Marie, sa mère, a vite fait de présenter à Mathieu, touchant la vocation de Jean-Marie, des projets fort bien conçus. Leur fils habitera sous le toit des cousins Imbert, ira chez M. Ballet pour les leçons, et tout cela ne coûtera pas cher. Et puis enfin, Écully n'est pas loin de Dardilly. Mathieu Vianney se laisse enfin fléchir. Mais il faut convaincre le futur professeur lui-même. À Marie, qui cherche à lui faire adopter son fils, Monsieur l'abbé Ballet répond « Je suis si occupé, je ne puis prendre un élève de plus. » Il finit cependant par accepter de recevoir le postulant. Et voici le premier dialogue entre Jean-Marie Vianney et celui que par la suite et jusqu'au bout, il considérera comme son maître. Or, Monsieur Ballet est content des réponses du jeune homme, impressionné par le regard de ses yeux bleus, enfoncés, lumineux. Alors le curé se laisse aller, à penser tout haut. Oh, pour celui-là, je l'accepte. Puis il dit à Jean-Marie de cette voix qui rassure et qui protège, « Soyez tranquille, mon ami, je me sacrifierai pour vous s'il le faut. » Dès lors, les matinées et les soirées de Jean-Marie se passent au presbytère d'Écully. Mais les difficultés et les peines commencent vite. Le jeune Vianney, nous l'avons dit, est intelligent, fin, extraordinairement intuitif, porté vers la méditation spirituelle la plus haute et doué d'une imagination généreuse et brûlante. Son caractère impétueux, il le domine, le tient en main grâce à sa volonté peu commune. Il possède un bon équilibre mental et par-dessus tout, sa vitalité au service d'un zèle qui ne connaîtra pas de limite est déjà hors de pair. Un véritable volcan d'énergie interne que l'amour de Dieu fera éclater plus tard, projetant sa lave de charité bien au-delà du village d'Ars, au-delà de la France elle-même. Et cependant, cet ensemble rare de qualités et de dons se trouve presque annihilé par un défaut de mémoire dû au manque d'entraînement. La mémoire est de toutes les facultés humaines, celle qui le plus facilement, sans qu'il ose. Et les circonstances dramatiques dans lesquelles s'est écoulée l'enfance de Jean-Marie, puis son travail absorbant du jeune agriculteur, ne l'ont nullement préparé aux études supérieures. Son intelligence tournée vers Dieu et vers son métier n'est en rien adaptée aux spéculations purement intellectuelles. Et puis, il ne connaît de la grammaire française qu'un minimum de rudiments. Comment pourra-t-il s'initier au mystère de la grammaire latine ? Davantage, ce Jean-Marie qui a la langue bien pendue, qui n'est jamais à court d'images frappantes pour exprimer ce qu'il veut dire, reste comme paralysé dès qu'on lui met une plume entre les doigts. Les autres élèves de M. Bellet, bien plus jeunes que Vianney, se moquent de lui. L'un d'eux, Mathias Loras, un jour qu'il aide son grand camarade à traduire un texte, s'énerve devant la lenteur du pauvre Jean-Marie et le gifle. Vianney est l'aîné et de beaucoup le plus fort, et cependant, maîtrisant une réaction vive et naturelle, il s'agenouille devant l'offenseur, devant ce gamin de 12 ans, demandant humblement son pardon. M. Ballet, lui, est inquiet. Il tient dans Jean-Marie un futur prêtre, un fameux futur prêtre. Il en pressent les qualités éminentes, le zèle dévorant, et il ne veut pas le lâcher. Il ne lâchera pas, car M. Ballet trouverait absurde que des histoires d'examen puissent entraver une aussi authentique et pathétique vocation. Il voit bien d'autre part que son Jean-Marie se désespère, que ce jeune paysan qui bronche devant le latin est à bout d'effort, à bout de volonté, à bout de nerfs. Parfois Vianney dit au curé « Laissez-moi aller chez mes parents ». M. Ballet craint qu'il n'y reste, découragé par ce qu'il appelle déjà « ma bêtise, mon incapacité. Où veux-tu aller, Jean-Marie? Tes parents, voyant l'inutilité de ton travail et de ton sacrifice, ne demanderont pas mieux que de te garder à la maison. Alors, adieu tous nos projets, adieu le sacerdoce et le salut des âmes. Voici bien le discours qu'il faut tenir à Vianney. Adieu le salut des âmes. Jean-Marie ne peut pas renoncer aux âmes. Il y a là une moisson qu'il attend et qu'il voit. On ne peut laisser se perdre tout ce blé. Les hésitations tourmentent encore le jeune Vianney. « Je veux m'en retourner chez nous », répète-t-il plus faiblement déjà. Et son argument, qui est l'argument du désespoir d'une âme harassée, lui revient aux lèvres. « Je ne peux rien loger dans ma mauvaise tête ». Cependant, une autre cause est peut-être à l'origine de ce dégoût, de cette tentation de renoncer. Monsieur Bellet, bien qu'il se sente usé jusqu'à la trame, vit avec austérité, se mortifiant de toutes les manières. Catherine Lassagne dira de lui « C'était un bel homme à qui, pour se soutenir, il aurait fallu plus de nourriture qu'à un autre, et pourtant, il jeûnait rigoureusement. Jean-Marie lui-même, enfiévré d'un besoin de pénitence, se pique aussitôt d'émulation. Il ne mange pas à sa faim, et comme les efforts de l'étude le minent, cette fatigue excessive agit sur lui, ajoute puissamment à son découragement, à ce mépris dissolvant qu'il a de lui-même. Nous savons qu'il prend ses repas chez ses cousins Humbert d'Écully. D'emblée, il a conclu avec eux un arrangement, posé ses conditions. Par exemple, il veut qu'on lui serve sa soupe sans aucune espèce d'assaisonnement. « Eh bien, soin, dit-il à sa cousine Marguerite, de me tremper ma soupe avant d'y avoir mis ton beurre ou ton lait, car je ne veux ni de l'un ni de l'autre. » Quand on observe ses prescriptions, il est content. Autrement dit, plus la soupe est insipide et mauvaise, plus Jean-Marie témoigne de satisfaction. Mais s'il arrive qu'on améliore le repas par mégarde ou involontaire ou volontairement, alors les choses se gâtent. Et les traits du singulier jeune homme s'assombrissent. Il se montre ennuyé, mélancolique. Il mangeait sa soupe, dira Marguerite plus tard, comme si chaque morceau eût dû l'étrangler. Et tout cela n'est qu'un commencement. Car s'il vient à rencontrer la misère et la peine, Jean-Marie Vianney devient fou de la folie des saints, aux yeux desquels la charité est la seule vertu que l'on doive pratiquer sans mesure. L'abbé Monin nous conte qu'allant un jour d'Écully à Dardilly, Jean-Marie rencontre un pauvre qui n'a point de chaussures. Il lui donne aussitôt, dans une impulsion, ses propres souliers, neufs. Et il arrive chez ses parents du pied. Mathieu, qui trouve cela déraisonnable, ne lui cache pas sa façon de penser. Déjà, l'on a volontiers recours au jeune Vianney pour lui demander conseil. Son calme, son humilité surhumaine, la vivacité de ses yeux bleus exercent une attirance étrange sur les gens qui l'approchent. L'un de ses cousins, Germain, en proie à l'indécision qui est le pire des tourments, s'interroge sur sa vocation. Il est cruellement partagé entre l'attrait silencieux du cloître et le regret d'abandonner sa famille. « Va-t'en trouver ton cousin Jean-Marie, » ont dit les parents de ce jeune homme, « et demande-lui son avis. Tu peux t'en rapporter à son jugement. » Vianney le reçoit et, sans la moindre hésitation, lui dit « Reste où tu es. Tes parents ont besoin de toi. » Mais les études du pauvre Vianney, malgré ses efforts désespérés, n'avancent guère. Il sait qu'il doit forcer les portes du ciel et maintenant n'entend plus renoncer. Dans une prière véhémente, il adjure le Seigneur de se laisser rejoindre par son serviteur. Monsieur Bellet, Ballet, têtu et perspicace, l'encourage. Et brusquement un jour, Jean-Marie décide qu'il ira plaider sa cause à la Louve Sec, près du tombeau de saint François Régis, l'apôtre du Velay et du Vivarais. Il s'agit de parcourir environ 100 km à pied. Et pour rendre plus dur encore son pèlerinage, Vianney fait le vœu de ne dépenser aucun argent ni à l'aller ni au retour et de mendier son pain. Muni d'un bâton et d'un chapelet, il part et très vite constate qu'il lui est presque impossible de tenir la promesse faite à Dieu. Personne ne croit dans cette histoire de pèlerinage. On le repousse, on l'éconduit, on l'injurie et parfois même on le menace. Jean-Marie mesure à quel point le cœur des gens est dur et méfiant. Puis, après bien des peines, ayant dû manger de l'herbe et boire à l'eau des sources, harassé, affamé, il parvient au sanctuaire de la Louvesque, alors célèbre, mais juché à 1000 mètres d'altitude dans les montagnes du Vivarais. Plus de 50 ans plus tard, à l'occasion d'une aumône faite à un pèlerin, le curé d'Ars dira « Il vaut mieux donner que demander ». Je n'ai mendié qu'une fois dans ma vie en allant au tombeau de saint François Régis et je m'en suis mal trouvé. On me prenait pour un voleur. On ne voulait me donner ni pain ni abri. J'ai fait changer mon vœu par un des pères de la Louvesque pour n'être pas obligé de tendre la main en revenant. Quoi qu'il en soit, le pèlerinage et l'épreuve portent leurs fruits. À partir de cette époque, dira le frère Athanase, le jeune homme fit assez de progrès pour ne pas se décourager. En vérité, oui, le travail devient plus facile, le latin même plus abordable. Monsieur Balès s'en réjouit fort. Et les inquiétudes de l'élève s'apaisent en même temps que celles du maître. Cependant, Jean-Marie atteint l'âge de la conscription. Nous sommes en 1807 et la classe du jeune Viennet a été largement entamée avant l'heure par ordre de l'empereur Napoléon, lequel est de plus en plus gourmand et prodigue en vie française. Déjà en 1805, des milliers de conscrits ont dû à devancer l'appel. En 1806, répétition des mêmes procédés, après la sanglante, héroïque et victorieuse campagne de Iéna. L'empereur, enfermé dans son système, vaincu sur mer, doit faire face aux coalitions terrestres que l'Angleterre ranime et dresse sans relâche contre lui. Les funestes mécanismes du blocus continental sont en marche et qui payent ? La France, les jeunes Français non volontaires et qui répugnent au métier des armes et que l'on arrache à leur foyer, à leur travail, à leur vocation, dans une époque où l'Europe ne connaissait encore que les armées de métier. Aussi bien le mécontentement s'élève, on murmure, on proteste, en attendant de s'enfuir ou de se révolter. Et ce n'est pas tout. Chez Napoléon se développe une tendance néfaste et de plus en plus brutale à ne supporter aucune tutelle, même spirituelle. Il ne croit pas à l'autorité de l'Église, mais à la sienne. Au fond, voyant dans la religion un simple levier pour agir sur l'amour et l'imagination des peuples, il se considère un peu comme le pontife des Français. La fête de la Saint-Napoléon a été instituée le 15 août. On a fini par découvrir à l'empereur un patron, un certain Néapolis ou Néapolas, martyr sous Dioclétien. Le catéchisme impérial est publié sur le modèle de celui de Meaux. Avec cette différence, fait remarquer Bainville, que Bossuet ne parlait pas des devoirs envers Louis XIV, mais seulement envers les rois qu'il mettait après les pasteurs. Tandis que maintenant, le quatrième commandement édicte les devoirs du chrétien envers Napoléon Ier, notre empereur, à qui sont dus au nom de Dieu l'impôt et la conscription. Dès qu'il s'agit de religion et d'autorité spirituelle, Napoléon, qui ne se doute même pas de ce que peut être la hiérarchie romaine, ni, à plus forte raison, le dogme, commence à déraisonner. C'est ainsi qu'il rencontrera, surpris, un obstacle qu'il n'avait point prévu, la conscience du pape Pie VII. Tout cela se complique d'incidences politiques, le Saint-Père ayant refusé de fermer ses ports aux Anglais. Cependant, le haut clergé français plie comme un roseau devant Napoléon, ce qui n'empêche pas l'évêque de Bordeaux, plus courageux que ses confrères, de dénoncer l'extraordinaire immixtion de l'empereur dans les affaires strictement religieuses et de s'écrier « Bientôt, si nous le laissons faire, il mettra la main à l'encensoir et peut-être voudra-t-il plus tard monter à l'autel. » On ne saurait mieux dire. Les nuées s'amoncellent entre l'Église et Napoléon et l'orage aboutira vite, on le sait, à l'invasion de Rome par les régiments français, à la suppression du pouvoir temporel du pape, à la réplique de Pie VII sous forme de la célèbre bulle d'excommunication majeure, puis à la scandaleuse captivité du Saint-Père, à tous les sévices infligés à ce vieillard débile et vénérable. Nous avons insisté assez longuement sur l'ensemble de ces circonstances politiques et religieuses, car sans les connaître, il est impossible de comprendre quoi que ce soit à l'état d'esprit qui règne en France dans ce temps-là, ni plus particulièrement à la situation de Jean-Marie Vianney. Donc, en 1807, Jean-Marie pourrait être frappé par la conscription, mais le curé d'Écully l'a fait inscrire parmi les aspirantes au sacerdoce, lesquelles bénéficient du décret impérial du 7 mars 1806, applicable au seul diocèse de Lyon et ainsi conçu, les ecclésiastiques engagés dans les ordres ne sont sujets ni à la conscription militaire, ni au service de la garde nationale. Le pauvre étudiant dispose encore d'un certain répit et pendant le carême de cette même année 1807, à 21 ans, reçoit le sacrement de confirmation. Monseigneur Trochu nous donne de curieuses précisions sur la manière dont le cardinal Fesch, oncle de l'empereur et archevêque de Lyon, administre les sacrements. Il avait fait confectionner un vase de longue forme allongée, sorte de corbeille en vermeil, qui pouvait contenir plus de 3000 hosties. Il y puisait pour garnir le ciboire avec lequel il parcourait l'église. Communiants ou confirmants étaient placés sur deux rangs au milieu de la nef et leur affluence parfois fut telle qu'ils débordaient sous le porche et jusque sur la place. À la fin de la messe, Son éminence, séance tenante, signait avec le Saint-Crème des masses de fidèles. On n'évalue pas à moins de 30 000 le nombre des confirmants de 1807. Le jeune Vianney a choisi Saint-Jean-Baptiste pour patron de confirmation. Il signera désormais tantôt Jean-Marie Baptiste, tantôt Jean-Baptiste Marie. Pendant les 2 années qui viennent, poursuivant ses études, approfondissant avec son cher monsieur Ballet l'amour de Dieu, le sens et le respect de l'infini de Dieu, il doit enfin connaître un peu de paix, un peu de joie.